Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette rentrée, que j'espère heureuse pour chacun d'entre vous, nous allons parler aujourd'hui d'un patrimoine que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer. Pour cela, nous nous transportons à Orgeux, petite commune voisine en Dijon, pour y rencontrer Michel. Michel, me direz-vous, ce n'est pas suffisant pour connaître le thème d'aujourd'hui. Si je vous dis Michel Cougbert, cela donne du sens, car Michel est connu et reconnu comme sculpteur animalier, non seulement en Côte d'Or, non seulement en Bourgogne-Franche-Comté, mais bien au-delà des frontières de notre hexagone dans le monde entier. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de sculpture? On pourrait dire pourquoi pas, car il est temps d'évoquer cet art. En effet, depuis les temps les plus reculés, nos ancêtres se sont exprimés par l'art pariétal, mais aussi par nombre de sculptures qui nous sont parvenues grâce aux découvertes des archéologues, dont nous avons largement parlé dans les émissions précédentes. La sculpture est donc une transmission particulièrement importante dans le vécu de nos sociétés. C'est une expression artistique qui est en évolution permanente depuis la Dame de Brassempuis. Si vous ne la connaissez pas, je vous renvoie à Internet ou à un bon dictionnaire. Aussi, aujourd'hui, il m'est agréable de rencontrer Michel Cougbert pour en parler avec lui. Bonjour Michel.
Bonjour Gérard.
Vous ne serez pas étonné si, malgré votre notoriété, je vous demande pourquoi vous en êtes venu à la sculpture.
Déjà je suis venu à la sculpture étant jeune, en travaillant déjà des bois et surtout en travaillant le dessin. Pour moi, un sculpteur, c'est déjà un dessinateur, c'est un créateur. Tout le reste, bien sûr, peut se fabriquer dans différentes techniques. Mais pour moi, la création, elle se partage, bien sûr. Mais surtout, elle est personnelle. Elle est comme l'œuvre que le sculpteur va faire.
Mais une création, ça ne vient pas comme ça. J'imagine qu'on réfléchit un peu à ce que l'on va faire, à la pièce que l'on veut réaliser. Comment ça se passe?
Écoutez, de toute façon, tout est dans la nature pour moi. En fait, une feuille, un coquillage, c'est déjà une sculpture. Et en fait, moi, je suis parti vraiment de la nature pour arriver à faire de la sculpture et surtout rentrer dans un domaine que j'appelle l'imaginaire, dans une sculpture que je travaille déjà en dessin et ensuite en plâtre et bien sûr en moule et en modèle. Je travaille beaucoup le dessin. Le dessin, pour moi, est capital pour un sculpteur.
Michel, nous sommes ici dans votre sanctuaire, dans votre atelier. C'est vraiment une grande structure. Il est impressionnant de savoir que c'est ici que vous réalisez vos sculptures. Vos œuvres sont très originales, très fluides. Contrairement à d'autres sculptures parfois très médiatisées, elles ne heurtent pas, elles ne choquent pas, mais s'intègrent dans une vision du beau, de l'élégant, oserais-je dire, du sensible. Ce n'est pas un art qui utilise des pièces mécaniques comme j'ai pu en voir par exemple à l'université de Dijon, fait avec des pièces mécaniques, des rouages, des boîtes de vitesse, des moteurs. Loin de là, votre expression donne dans le compréhensible, dans le perceptible, sans être figuratif. Il nous permet également immédiatement de reconnaître ce que vous avez voulu présenter tout en restant dans la suggestion. Est-ce un style qui rappelle Pompon, par exemple? J'espère ne pas vous gêner en disant cela. Est-ce un style qui se rapproche de Brancusi? Enfin bref, comment vous définissez vos réalisations?
Mes réalisations, je vais les définir personnelles. J'ai essayé, par rapport, vous parliez de François Pompon, étant à l'association des amis de François Pompon, étant vraiment très très proche de cette œuvre qui est pour moi capitale, j'ai essayé de construire un monde imaginaire. J'ai essayé d'ajouter un maillon à une chaîne à l'art animalier. On ne peut pas recopier ce que François Pompon a fait. Tous les gens qui recopient François Pompon, c'est des gens qui n'ont pas d'imagination. D'ailleurs, François Pompon, je dirais simplement, est-ce qu'il aurait autorisé qu'on copie son travail? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Par contre, vous avez l'air de dire, mon cher Gérard, que les parties mécaniques que l'on voit sur les sculptures, je dirais par exemple les sculptures d'Armand, personnellement, moi j'aime bien, parce que Armand a essayé lui aussi, bien sûr, d'ajouter un maillon à une chaîne, comme César d'ailleurs. On aime, on n'aime pas. Mais disons que c'est des sculpteurs qui sont quand même personnels. Quand on voit une œuvre de César ou d'Armand, c'est Armand. Et quand on verra une sculpture de Cougbert, eh ben, c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est du travail qui est personnel, c'est un travail qui est monté, qui est réfléchi. Une œuvre d'art, vous avez le côté visible et vous avez le côté invisible. Si vous ne décodez pas le côté invisible, vous n'avez rien compris. Hein, vous allez dire c'est beau, mais beau, ça ne suffit pas. Et je pense que dans mon imaginaire, j'essaie de travailler, bien sûr, toutes les rondeurs des formes. Toutes mes formes partent de rondeurs. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas pourquoi, ça c'est la création aussi qui le donne. Prenez la pièce de Marsanet qui fait 5 mètres de hauteur sur un rond-point, fait partie des 22 monuments que j'ai fait en France. C'est une symbolique. Je travaille dans le symbole aussi. Hein. La symbolique, c'est le cercle d'abord, la pièce de Marsanet, avec bien sûr deux oiseaux. C'est l'amour entre les êtres et les animaux. Ça, c'est le côté invisible de l'œuvre. Et si vous allez à Marsanet, c'est même encore pire. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Si vous vous mettez 300 mètres en arrière, vous avez les deux oiseaux qui s'embrassent, qui sont dans le clocher de Marsanet.
C'est effectivement une révélation. Mais est-ce que votre art a-t-il évolué depuis vos débuts? Et si oui, est-ce qu'en gardant le même sentiment, vous avez une expression différente?
Ben, l'expression est différente, elle est en fonction aussi de l'époque, je pense. Hein. Et on ne peut pas regarder tout ce qui est design aujourd'hui. Ça s'indique des produits manufacturés, ils sont tous vraiment agréables à regarder. Alors, je ne fais pas des sculptures pour qu'elles soient agréables à regarder, mais disons que la première des choses, déjà, en ce qui me concerne, j'essaie de me faire plaisir. Le reste du temps, j'espère que je ferai plaisir à d'autres personnes, mais la principale des choses, c'est de se faire plaisir soi-même.
Faire plaisir aux autres, à ceux qui peuvent aimer et découvrir une nouvelle forme d'art, de sculpture, c'est aussi, je pense, un de vos messages importants qui est peut-être subliminal, mais que vous passez d'une façon implicite. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Michel Cougbert, sculpteur animalier de renommée internationale, qui ne cesse de créer pour le plus grand plaisir de tous ceux qui peuvent admirer ses œuvres. Michel, je dis international, donc ça veut dire que ça va un petit peu au-delà de la Côte d'Or et même de l'Hexagone, comme indiqué en introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous allez grâce à vos œuvres?
C'est-à-dire que moi, je travaille surtout en galerie. Galerie d'art, hein. J'ai en ce moment cette galerie d'art qui diffuse mes pièces, mes sculptures. Donc c'est des pièces qui partent à l'étranger, qui partent, je ne sais pas exactement la destination. Mais disons que ce sont des sculptures qui ont quelque chose à révéler, quelque chose à dire. Voilà, vous avez le côté invisible de l'œuvre, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que les marchands d'art, les galéristes, qui sont d'ailleurs des gens quand même importants aussi pour l'artiste, hein, parce qu'ils permettent aussi de diffuser. Hein. Je remercie d'ailleurs les galeries qui m'ont fait confiance et qui me font confiance en ce moment. C'est vrai que la période n'est pas facile, mais disons que des pièces qui partent à l'étranger... Il faut quand même s'en occuper. Souvent, on a une mauvaise image du galériste, mais je pense que ce n'est pas la bonne image à donner à un galériste. Et je pense que j'ai besoin aussi de galéristes pour arriver à travailler. Et je les en remercie.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'artiste est également un artiste qui vit dans un monde, non pas un monde secret, mais un monde ouvert. Ouvert sur son art, ouvert sur ce qui l'accompagne. Ouvert sur ceux qui l'aident à faire la pièce, comme par exemple pour vous, pour un sculpteur, il faut un fondeur, bien évidemment. Et est-ce que dans ce cadre-là, vous avez l'idée peut-être un jour d'évoluer pour retrouver ce que faisaient nos prédécesseurs en matière d'art, qui avaient un atelier avec des jeunes qu'ils formaient? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une chose qui est encore possible? Soit dans votre art, soit dans un autre que celui que vous pratiquez.
Écoutez, la formation, pour moi, j'ai donné aussi. J'ai un fils qui fait de la sculpture depuis maintenant 15 ans. Il vient de fêter ses 15 ans de sculpture. Moi, j'ai eu pendant 10 ans à l'atelier pour transmettre. Mais moi, en ce qui me concerne, à mon âge, pour moi, c'est terminé. Hein. Il faut surtout essayer de préserver ce que l'on a fait, bien sûr, et puis le faire partager, c'est surtout ça, le partage. Hein, aujourd'hui, on est dans une société de consommation, donc je ne tiens pas du tout à faire partie de cette société de consommation dans le domaine des arts, mais surtout un partage. Hein, la formation, moi j'ai 77 ans maintenant, je pense que j'ai assez partagé, Et voilà, je me suis fait plaisir simplement en fêtant 45 ans de sculpture cette année, au mois d'octobre, donc du 1er au 31 octobre, ouvert tous les jours. Hein. Vous aurez la publication dans l'Hebdo Dijon, qui me suit bien sûr en permanence. Hein, l'Hebdo Dijon est un ouvrage culturel aussi, d'information, mais surtout culturel. Et je remercie aussi les journalistes qui partagent mon travail.
Michel, vous nous avez montré tout à l'heure un livre, deux beaux livres d'ailleurs, dans lesquels vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, plutôt que j'essaie de le dire moi-même avec des mots qui ne seront peut-être pas les bons?
Oui, je vous ai montré, Gérard, ce livre-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu le bonheur d'avoir le Grand Prix européen de sculpture en 2019, qui m'a été remis à Paris par le critique d'art Jean-Charles Hachette, et qui a fait le dictionnaire des artistes animaliers de l'Antiquité à nos jours, dont tous les commissaires-priseurs, les marchands d'art, les artistes ont, et bien sûr contrôlent tous les jours, hein, pour arriver à voir qu'est-ce que l'artiste a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu éventuellement trouver. Voilà, le critique d'art Jean-Charles Hachette est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein, on se connaît très très peu, on se connaît qu'au téléphone, parce que c'est des gens qui ne veulent pas qu'on les approche, bien sûr, ils ont raison. Personnellement, vous savez, j'ai 22 monuments, je n'ai jamais demandé à un maire de faire un monument. On est toujours venu me voir, et je pense que j'ai horreur de demander, mais par contre, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est quand même de donner la possibilité aussi à des jeunes, hein, parce que des jeunes qui font quelque chose, qui veulent faire quelque chose, il faut les aider aussi. Il faut que les mairies qui ont des budgets puissent lancer des 1% pour arriver à aider ces jeunes-là. Voilà, personnellement, je n'ai pas eu besoin. Pourquoi? Parce que les maires venaient me voir directement et j'ai eu le bonheur de parler et de partager la création en fonction d'un emplacement et d'une ville.
Ce qui s'appelle « Penser aux autres », merci Michel. En me retournant aussi bien à gauche qu'à droite, je m'aperçois qu'il y a ici une foultitude de pièces qui vont être soit partir à la fonte ensuite, soit qui vont se retrouver en état d'attendre une finition. Mais il y a aussi un nombre de pièces de moules tout à fait extraordinaire. 45 ans, bien sûr, je comprends. Mais vous devez travailler le jour et la nuit, c'est pas possible. Comment vous faites? Comment vous répartissez un peu vos affaires entre la création et l'exécution ou la mise en œuvre?
Vous savez, la création, elle s'improvise du jour au lendemain. L'artiste est un funambuliste. Hein, il est sur un fil, il marche, et à partir du moment où il marche, il va retrouver la création. S'il ne la retrouve pas, ça veut dire qu'il passera à côté. Et ça, je le retrouve quand je fais mes originaux, mes plâtres originaux. À un certain moment, la ligne va définir un effet de stratégie et de référence pour en arriver, bien sûr, à ce que je veux. Par contre, dans toutes les sculptures, bien sûr, celle que je préfère, c'est celle que je ferai demain. Donc, à partir du moment où on reconnaît qu'une sculpture est un matériau qui est, bien sûr, élaboré, hein, il fera partie de mon environnement et peut-être de l'environnement d'autres personnes.
Que pourriez-vous dire à des jeunes sensibles à la sculpture et plus généralement aux arts, aux beaux-arts, et qui voudraient s'y engager? Comment les aider? Comment les mettre sur la bonne voie? Est-ce que finalement tout viendrait d'eux ou est-ce qu'il y a des formations initiales? Est-ce qu'il y a une solution au fait de s'engager dans les arts? Parce que pour le savoir, c'est toujours fortement risqué et toujours très compliqué.
Oui, c'est compliqué parce que la vie est tellement rapide que si on s'engage, la formation que l'on retrouve à l'École des Beaux-Arts est une très bonne formation, c'est pluridisciplinaire, c'est très bien. Il faut que le jeune puisse, qui est dans les écoles des beaux-arts, puisse choisir, bien sûr, sa spécialité. Mais derrière, il y a une chose quand même, c'est qu'il faut bien sûr trouver la possibilité d'en vivre, ce qui n'est pas évident. Donc moi, ça me paraîtra difficile de parler de... Moi, je fais toujours une sculpture qui est imaginaire, mais qui est quand même encore conventionnelle. C'est-à-dire que je fais mes modèles, mes moules, mon ciselage, mes patines. Donc, si vous voulez, la formation aux Beaux-Arts aujourd'hui n'est plus du tout comme ça, et ça, je le consens. L'époque a évolué, et je pense que ça évoluera encore davantage. Hein. Ça évoluera davantage, et moi, je me fais plaisir, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Voilà, j'essaie de vivre dans mon temple de sculpture, mon temple qui se trouve à Orgeux.
Je crois que vous vivez justement à travers votre art et la meilleure transmission, c'est l'émotion que vous transmettez à travers tout ce que vous faites. Comment prendre connaissance de vos œuvres justement? Comment venir les admirer? Est-ce qu'il y a une possibilité? Votre atelier est visitable? Comment? Vous avez des catalogues? Comment on peut prendre contact en fait avec toutes vos œuvres?
Prendre contact, vous avez d'abord premièrement un site qui est régulièrement mis à jour. Vous avez l'actualité, vous avez les monuments, vous avez la partie cookie chrome que j'ai protégée, bien sûr, puisque c'est des bronzes qui sont recouverts d'argenture, dégradés, entre parenthèses. Et vous avez bien sûr mon site. En faisant bien sûr cookberg.com, vous allez pouvoir retrouver la totalité du parcours. Oui, vous disiez l'atelier est ouvert tous les samedis, sans rendez-vous de 10h à midi et de 14h à 18h. Et là, vous pouvez découvrir, bien sûr, des œuvres qui sont en fabrication. Vous allez pouvoir découvrir des œuvres qui sont terminées. Du dessin, bien sûr, hein, du matériel. Mais le matériel ne m'intéresse pas parce que le plus important, c'est la création. Hein, je l'ai dit X fois pendant l'émission. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Tout le reste, c'est de l'enjolivure. Hein. Voilà.
Merci. Merci, Michel, pour nous avoir transportés dans ce monde de l'art, de nous avoir accueillis dans votre atelier, si émouvant à visiter, au milieu de toutes ces belles créations. Je ne doute pas que nos auditeurs viendront réjouir leurs yeux et leurs cœurs en venant vous rencontrer hors jeu. Dans votre atelier, cet univers créatif si intéressant pour tous ceux qui aiment l'art et qui ont envie de le comprendre. Comme d'habitude, une vidéo de cette émission sera disponible sur le site patenvbfc.org en cliquant sur « Nos vidéos ». C'est le mag se termine. Nous laissons maintenant l'antenne à nos amis des actualités qui vous feront part des dernières nouvelles.